Eh bien, vous l'avez deviné, vous êtes bien sur Radio Libertaire, il est 10h07. Et vous avez entendu notre célèbre indicatif, du moins celui de l'émission Chronique Hebdo, qui va commencer dans 23 minutes, c'est-à-dire à 10h30, et qui sera consacré, comme d'habitude, bien sûr, à un commentaire extrêmement libertaire, spécifiquement anarchiste, de l'actualité. Et bien, ce sera toujours vos deux animateurs préférés, adorés, qui essaieront de ne pas trop vous ennuyer par leurs propos et leurs commentaires. Alors, tout à l'heure, on aura l'occasion de oui, je suis un peu arrêté parce que la technique est absolument. Il va falloir que vous payiez votre cotisation pour écouter Radio Libertaire parce que on n'a plus qu'un seul support de disque. Alors c'est pas très commode pour faire les liaisons. Enfin donc tout à l'heure on va essayer d'aborder. Le sujet, enfin il y a beaucoup de sujets bien sûr dans l'actualité de cette semaine et des semaines précédentes, mais on va essayer de parler des Jeux Olympiques et du sport en général, avec quelques commentaires et quelques citations d'un personnage qui est tout à fait d'actualité, puisqu'au fond c'est lui qui nous a prévenus il y a tout de même pas mal d'années, hein, il y a presque 60 ans. C'était dans les années 40-45, George Orwell, puisque c'est de lui qu'il s'agit, George Orwell nous a écrit un célèbre bouquin qui, à l'époque, était considéré comme de la science-fiction, c'est-à-dire, au fond, quelque chose de peut-être vraisemblable, mais pas certain, et que il y avait peut-être un peu un côté trop noir dans la description qu'il faisait de 1984. C'était le titre de son bouquin, 1984. Et évidemment, ce qui pour peut-être George Orwell ne devait pas manquer d'arriver, est arrivé. C'est-à-dire que nous sommes dans une société de guerre, une société de nationalisme, une société de peur, une société de violence, qu'elle soit économique ou qu'elle soit militaire. Et c'est bien contre cela que lui-même avait, George Orwell, avait espéré vaincre. C'est bien cette conception de la vie en société qui est le propre malheureusement de la société moderne, une conception dans laquelle l'individu ne compte, non seulement ne compte pas, mais en plus est considéré comme un zombie, un abruti par les médias, la télévision et la publicité. Et puis évidemment toujours le grand principe, c'est métro, boulot, dodo, et puis on en fait simplement de la chair à canon avant de également de se mettre à lui demander, même pas lui demander, mais lui demander de ne pas trouver insupportable la société dans laquelle il vit, et on est en train de préparer une loi sur la liberté de se suicider. Donc George Orwell avait en effet malheureusement prévu cette noire société dans laquelle nous vivons. Et si je pense que il est d'actualité aussi aujourd'hui, indépendamment de cet aspect général de la vision assez noire de la voie dans laquelle s'engageaient les sociétés. George Orwell s'était battu contre les fascistes, contre le nazisme pendant la guerre d'Espagne. Il avait participé au combat, malheureusement, qui s'était terminé par la victoire de tous les nationalismes et de tous les fascismes, de Franco en Espagne, mais malheureusement, avec après ce qui s'est passé un peu partout en Europe sous le nazisme, suivi ou accompagné par le goulag et la dictature stalinienne. Mais il avait, puisqu'il était chroniqueur dans les journaux ou à la radio, à la BBC en Angleterre, George Orwell avait l'habitude de faire un certain nombre de papiers, d'articles. Et il en a fait un qui tombe alors encore plus dans l'actualité sur le sport. Puisqu'au fond, le grand sujet qui occupe tous les médias, c'est de savoir s'il va falloir faire participer aux Jeux Olympiques dans un pays qui est considéré comme exerçant une dictature communiste, mais qui a quand même été choisi par les organisateurs, c'est-à-dire les multinationales de la finance, puisque le sport n'est plus que finance. Il n'est plus que finance, mais pour George Orwell, à l'époque, c'était pas encore les clubs qui payent des milliards leurs joueurs, qui sont en bourse, qui ont des actionnaires, qui entrent dans l'économie financière de la spéculation. Mais c'était déjà pour lui. Et il raconte, notamment, je vous en lirai des extraits, il raconte un match de foot en 1945 entre Arsenal, justement, vous savez, ce Arsenal qui vient d'être visité par notre président de la République, là, entre deux agapes, et Dynamo de Moscou. Donc, le capitalisme qui venait de finir la guerre avec l'aide des soviétiques. Et donc, George Orwell raconte que, enfin, je vous en dis pas plus, ça sera pour tout à l'heure, mais il raconte à quel point le sport est un véritable porte-drapeau des nationalismes, des fascismes et de la guerre. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, et je vous laisse en compagnie de, on va rester avec Herbie Hancock, puisqu'on n'a pas de, on n'a pas d'autre solution. À tout à l'heure. We'll be right back.
Thank you. Thank you.
Mal Waldron sur Radio Libertaire, un célèbre pianiste de jazz qui, pour un certain nombre de ses morceaux et aussi de sa virtuosité, peut faire penser à Oscar Peterson, mais peut-être plus encore à Thelonious Monk. Voilà. Bon, ben, vous n'êtes pas dans l'émission de Gérard. J'espère que d'ailleurs qu'il reviendra le mardi pour faire son émission de jazz. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste. Et l'émission qui, tous les jeudis de 10h, 10h30 à midi, vous passionne, s'appelle Chronique Hebdo. Et Chronique Hebdo est non seulement en direct tous les jeudis, mais si vous disposez d'Internet, vous pouvez aller sur le site Chronique Hebdo ou sur le site de Radio Libertaire et vous pourrez réécouter un certain nombre de nos émissions. Voilà. Et c'est sans délai et c'est sans péage, hein, contrairement à un certain nombre de pratiques Internet, pas très nettes, comme dirait notre ami Jean-Claude Mérillon, qui a fait une très belle petite chanson. Un jour, on la passera sur ce qu'il pense d'Internet. Alors, le programme de cette matinée, qui, bien sûr, dans Chronique Hebdo, c'est un commentaire le plus anarchiste possible de l'actualité, on a l'intention de vous parler du Monde Libertaire qui a fait, dans lequel la première page est consacrée au travail. On a donc, et ça c'est un sujet qui est régulièrement évoqué, et Gérard vous lira un certain nombre de textes sur ce sujet-là. Puisque vous savez que nous adorons le travail, nous sommes comme Michel Onfray des bourreaux de travail, nous envoyons toujours des suppliques à nos chers patrons pour qu'ils nous embauchent et qu'ils ne nous payent pas. Donc c'est évidemment un sujet qui est à la fois d'actualité et éternel. Et puis alors un autre sujet dont je parlais tout à l'heure un peu avant le début de l'émission est très d'actualité, c'est que tous les médias, tous les journaux se précipitent sur l'histoire du sport et des Jeux Olympiques en Chine avec les massacres des Tibétains par les Chinois. Il y a d'ailleurs un article dans Le Monde Libertaire. Ah oui, n'oubliez pas d'aller tous les jeudis à Publico pour acheter Le Monde Libertaire. Ou bien vous vous abonnez, ou bien vous allez trouver votre kiosquier favori parce que, à Paris en tout cas, il y en a qui vendent le monde libertaire. Il n'est pas toujours en montre, hein, il n'est pas toujours sur la devanture, mais il est là. Alors il y a un article d'ailleurs sur ce sujet, sur le Tibet, un article de Jean-Jacques Gandini, je crois, qui dans sa conclusion évoque, mais ça n'est pas parce qu'il y a les massacreurs d'un côté et les victimes de l'autre, parce que ça n'est pas parce que la loi du plus fort et du plus nombreux que les Han, H-A-N, s'emparent et occupent et investissent et colonisent par la population le Tibet, et que l'armée chinoise massacre les Tibétains, pas seulement les moines. Évidemment, il serait tout à fait ridicule de ne pas souligner cet aspect violent de la guerre que les Chinois mènent contre un peuple. Il ne faut pas oublier pour autant, et c'est ce que dit Jean-Jacques Gandini, que le Tibet, avant d'être englobé dans la Chine, était un pays théocratique, c'est-à-dire commandé par des curetons, par des moines, et que le servage était une tradition bien établie. Donc, ça n'est pas évidemment parce que on a été soumis pendant des siècles à quelques Dalai Lama, comme dirait là encore Jean-Claude Mérillon à propos de Lama, ça n'est pas parce que pendant des siècles on a été soumis, on a été des serfs et on a été soumis à des horribles prêcheurs que on peut glorifier en quelque sorte, hein, là encore, disons que on va pas mettre dos à dos les assassins et les victimes, mais disons que le Tibet en tant que institution, société et anciennement État théocratique est tout à fait aussi critiquable, même si les armes qu'utilisent les moines ne sont pas la violence et la terreur, ils sont quand même, ce sont quand même des armes. Les armes du décervelage des individus. Alors, ça, c'est le premier sujet à propos de ces Jeux olympiques. Et puis, le deuxième, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que le sport? Qu'est-ce que c'est que ce comité des Jeux olympiques? Qu'est-ce que c'est que cet ancien président du CIO, Samaranch, qui était un fasciste proche de Franco et qui était un des grands maîtres à penser de l'Opus Dei, vous savez, cette institution papale catholique qui a succédé à l'Inquisition, hein? C'est, n'oublions pas ça, c'est ça l'ancien président du CIO. Et quant au nouveau qui ne vaut pas mieux, qui ne vaut guère mieux, évidemment, il est entièrement entre les mains de tous les intérêts financiers qui veulent faire des affaires, que ce soit à Pékin ou que ce soit à Pétaouchnok. Hein. C'est, donc ça ne le gêne pas du tout qu'il y ait des violences dans tel ou tel pays et que, comme il le dit lui-même, il ne sent pas vraiment une volonté de boycott de la part des États. Donc c'est un petit aspect des choses, mais l'autre aspect, c'est de se poser la question, mais quelle est l'origine de ces Jeux olympiques? N'oublions pas qu'ils ont été lancés 20 ans avant la guerre de 14 par un certain Coubertin, Pierre de Coubertin. Et si vous lisez un peu sa biographie à ce Pierre de Coubertin, eh bien, il avait comme vocation d'être militaire, hein. Il avait décidé de s'engager comme militaire de profession. Et puis, brusquement, il s'est dit, mais au fond, prenant en cela la relève et la suite de Jules Ferry, il s'est dit, mais au fond, les jeunes des écoles, ils ne s'intéressent pas suffisamment à la formation de leur physique et de leur corps. Il va falloir développer la culture physique pour en faire des bons petits soldats qui, 20 ans plus tard, pourront aller, en effet, se faire massacrer pendant la guerre de 14. Alors voilà ce que c'est que le fondateur des Jeux Olympiques, ce Pierre de Coubertin. Eh bien, la suite a prouvé, hein, que, effectivement, les plus beaux sur le plan de la propagande de ces Jeux Olympiques ont été ceux de Berlin, organisés par les nazis. Et on ne parle jamais de ceux qui se sont fait justement en opposition à cette glorification du nazisme à Barcelone et qui ont rassemblé quelques pays qui en effet n'avaient pas encore choisi le camp de la mort et de la destruction nazie. Alors donc c'est sur ces deux aspects de l'actualité par rapport à la Chine par rapport aux Jeux Olympiques, on pourra dire un mot. Et puis, troisième évocation, il y en aura peut-être d'autres, d'ailleurs, Gérard vous le dira. Mais en tout cas, moi j'avais l'intention de parler un peu, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé du monde diplomatique, et que le monde tu vas peut-être en parler toi, le monde diplomatique a fait... je ne sais pas si c'est une association qui l'appelle avec les trois Luxembourg, cinéma parisien, et donc a présenté le dimanche dernier dans le cadre de ce qu'il appelle Diplociné. Alors est-ce que Diplociné, ça veut dire association à la fois des cinéastes et puis du monde diplomatique, des gens du monde diplomatique, dirigé maintenant par Serge Halimi. Il a fait une présentation d'un petit documentaire qui s'appelle « Les Caprices de Marianne ». Alors j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots tout à l'heure. Voilà, Gérard, à toi.
Oui, Jacques, on en parlera au cours de cette émission. Alors certainement, évidemment, tu as évoqué le monde libertaire, hein, pour ce matin. Alors aussi, vous verrez, dans le monde libertaire, on va peut-être en parler à partir d'un article, tu l'as évoqué, donc de Jean-Pierre Levaret, hein, sur la question du travail, celle-là. Et puis aussi, je vous parlerai d'un ouvrage, hein, qui a été... Toujours d'actualité, que je trouve assez formidable. C'est pas, non, mais justement, dans toute cette actualité, alors on va voir ça ce matin. Donc, un ouvrage d'Alexander Bachmann, qui s'appelle « Qu'est-ce que l'anarchisme ?». Il est relativement bien fait, clair, précis, simple, et je trouve que simple et pas simplet, justement par rapport à cette société où, vous le savez, comme on dit, selon la formule, c'est complexe. Hein. Alors la complexité, on en crève, il vous explique tout ça, hein, les diafoirus, comme je dis, de l'économie ou de la politique. Et là, c'est relativement simple, donc c'est relativement aussi dangereux. Et cet ouvrage a été traduit en 2005, hein, seulement la possibilité de le lire dans la langue de Molière, en 2005, et on en parlera ce matin, justement, mais il y a beaucoup de chapitres, je ne vais pas en parler trop longtemps, à partir de deux thèmes développés dans cet ouvrage, qui sont assez clairs, assez précis, c'est-à-dire le travail salarié, qu'est-ce que c'est que le salariat, ça c'est très important, et comment le gouvernement et la loi protègent, encourage le travail salarié, et donc évidemment, vous le savez, un des piliers du capitalisme, hein, comme tel qu'il est, puisque on verra ça aussi, je sais pas si tu as vu les titres du Monde, le Monde, pas ce Le Monde libertaire, mais ni Le Monde diplomatique, mais le quotidien vespéral des marchés.
Sur l'ivresse?
Alors ce matin, non, alors l'ivresse...
Il a fait un titre sur l'ivresse en milieu étudiant.
Oui, exactement, mais ce matin, c'était celui d'hier, hein, si vous voulez le voir un petit peu, comment c'est dans les grandes écoles. On en a déjà parlé des grandes écoles, hein, en particulier les écoles, vous savez, qu'on appelle grandes, hein, que le système appelle grand, c'est-à-dire les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, et c'est là que se saoule la gueule, hein, mais vraiment presque à en crever, là aussi, je sais pas si c'est suicide, hein, mode d'emploi, comme on a parlé, peut-être pour les étudiants. Oublier, je pense que dans les écoles de commerce, ça doit être tellement terrifiant, ce qu'on leur fout dans le crâne, qu'ils ont une nécessité impérieuse de vouloir oublier tout ça et qu'ils se défoncent, hein, c'est que faut employer ce mot-là, à des alcools extrêmement forts. Donc, mais le Monde n'a pas repris, n'a pas fait ses comparaisons, évidemment, vous vous en doutez, mais simplement évoqué que c'était un nouveau péril, hein, le péril de l'alcool. Alors, je pensais à ça, Jacques, puisque tu l'évoques, à l'assommoir, hein, vous savez, l'assommoir d'Émile Zola, encore une fois, pour les assommer le plus possible, mais cet aspect de l'ivresse, ou tout du moins de la défonce à l'alcool chez les plus jeunes, est significatif, hein, puisque la guerre économique fait rage, hein, vous savez bien, les petits soldats, donc, avant d'aller au front, avant d'aller à la bagarre, on leur donnait un petit peu de la picole, hein, pour pouvoir avoir un peu de... pour oublier peut-être ce qu'ils allaient faire.
Ils allaient faire des
voilà. Certainement de se faire tuer. Alors ça, c'est les analogies avec les écoles du crime, hein, comme on les appelle, les écoles de commerce, le crime capitaliste, le vol capitaliste, mais c'est pas simplement du vol, hein, on l'a dit souvent, c'est qu'il y a autour de ça, évidemment, la guerre perpétuelle, la guerre en continu, et puis des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de gens qui crèvent de faim sur cette planète, et la destruction, évidemment, du système. Alors c'est pour ça, ça c'est une première remarque. Dans ce monde, le quotidien vespéral des marchés, eh bien simplement celui de jeudi, hein, d'aujourd'hui, avec le titre pour le bal, alors le menuet, là, c'est pas à la Lanterne ou à Versailles, mais c'est à Buckingham Palace, et les premiers titres, alors la première page du Monde. Alors, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait un recto verso pour le Monde d'aujourd'hui, hein, le journal officiel, la Pravda du capitalisme, comme on l'appelle dans cette émission. C'était à la fois, donc on les voyait, Monsieur Gordon Brown, dans l'entretien, nous dit qu'il faut tout changer, hein, en particulier tout changer pour ne rien changer, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, des institutions, d'après lui, périmées, hein, de 1945. Il nous dit que c'est la société global, c'est la société du marché global, hein, partout. Alors, donc, il faut tout changer, mais simplement, on voyait bien que pour le cérémonial, ne rien changer à la vie de château, ne rien changer aux milliardaires qui se sont remplis les poches, ne rien changer à nos bals costumés, ne rien changer en nos balades en carrosse, et ne rien changer à la politique aux chaises à porteurs. Hein. C'est la politique de la chaise à porteurs. Donc ça n'a pas changé. Et là-dessus, aucune remarque, vous vous en doutez bien, parce que c'est quand même formidable de pouvoir profiter de tout ça.
Et pourtant, on a un président, un chanoine qui parle toujours de réforme.
Oui, mais là...
Il n'a rien réformé.
Alors la réforme, vous savez pour qui ça s'adresse, puisque la réforme, ça veut dire régression. Hein. Ça veut dire attaque et destruction, en particulier pour l'ensemble des populations et pour ceux qui sont esclaves ou qui sont exploités par le système capitaliste. Alors là, on veut les réformer, puisque vous savez très bien que le code du travail, c'est d'actualité. Hein. Ils veulent le plomber. Et en ce moment, les discussions vont se faire, vous le savez, pour la séparation à l'amiable. Hein, entre l'esclave et son maître. Alors ça, on en dira peut-être un mot. Et puis aussi, c'est d'actualité avec l'histoire des retraites, hein, puisque c'est 41 ans, 42 ans, puisque le MERDEF réclame 45 ans de boulot. Alors, réforme, ça veut dire ça, on vous fera bosser jusqu'au cimetière. Mais pour nous, hein, puisqu'il l'avait dit, les caisses sont vides pour vous, mais pour nous, les caisses sont remplies, les caisses débordent, nous avons des bifetons partout. Alors ça, c'était la première page du Monde, mais en revanche, le verso, beaucoup plus intéressant, c'était consacré, alors là, on parlait des poètes des États-Unis. Alors souvent, vous savez, dans cette émission, tout ce que l'on peut dire sur les États-Unis, mais encore une fois, c'est pas la population, hein, une partie de la population, évidemment, mais c'est surtout le gouvernement, c'est surtout les institutions, c'est surtout tous ceux, encore une fois...
Et puis les pouvoirs économiques, hein,
exactement.
Les nationales, les financiers...
Alors exactement, Jacques, et là, on parle, eh bien ça change un peu, ça met un peu d'air, hein, mais faut aller à la dernière page, la page 32 du Monde de ce jour, où on en parle des poètes, hein, qui ont manifesté, il y a plein de gens qui manifestent les États-Unis, on n'en parle pas, évidemment, pour les 5 ans, hein, les 5 ans de la boucherie en Irak. Et donc, il y a des gens là-bas qui ont essayé de dire certaines choses avec leurs mots, hein, avec leurs mots, essayer justement par la poésie, en observant que les mots ont été maltraités et qu'il faut leur redonner une respiration, qu'il faut, comme on le dit souvent ici, leur redonner du sens. Et l'analyse était faite pour dire que même l'idée là-bas de mots comme progrès, eh bien, le progrès, ce mot-là, est utilisé justement par la communication, la propagande états-unienne de Bush, et que pour les enfants des écoles, quand on leur dit va falloir progresser, en particulier pour ton travail scolaire, ben, ce qu'ils entendent, c'est la situation en Irak, où le progrès de la boucherie là-bas, le progrès de la mort, le progrès de la destruction est à l'œuvre. Et ils veulent dire par là que ces mots-là, qui ont été évidemment, on en a souvent parlé, falsifiés, ces mots corrompus, qui ont été corrompus par les communicants, par les politiciens, eh bien les poètes essayaient de donner, là c'est une manifestation qui a eu lieu il y a quelques semaines, essayer de faire réagir. Alors ils ont lu des textes, hein, ils ont avec leur sensibilité, là aussi ils ont exprimé certaines choses comme d'essayer de présenter une réalité différente, tout du moins une description de cette réalité, et puis dire aussi une chose très forte, hein, être poète dans l'Amérique de 2008, alors on dit les États-Unis, hein, vous le savez bien dans cette émission, c'est avoir une conscience de l'autre comme ami, non pas toujours comme ennemi, comme le fait le gouvernement. Alors ça, c'est pas étonnant, évidemment, puisque vous savez que le gouvernement, par définition, est un ennemi des populations. Et c'est pour ça, Jacques, peut-être que tout à l'heure, on revisitera, c'est très important, je pense, de revisiter, et pas de revisiter, surtout de relire, et au moins de s'informer, d'aller voir un petit peu ce qu'ont dit certains, justement, sur le gouvernement, sur l'organisation capitalisme, sur le salariat, sur le travail, et en particulier avec cet ouvrage, comme je disais, d'Alexander Berkman, où on verra justement revenir sur ce que ça veut dire, et là aussi peut-être faire cette liaison avec cette tentative, elle n'est pas désespérée, je crois qu'elle est très importante, de la poésie, et justement à ce sujet... Jacques, on va l'annoncer dans cette émission. On devrait recevoir le 17 avril, dans cette émission Chronique Hebdo, Jacques Vallet, puisqu'on parle de poésie.
Écrivain, poète.
Voilà. Et de la revue.
Et qui est déjà venu il y a quelques années.
Voilà. Et en particulier de sa revue Le Fou Parle, où justement le sens, hein, la poésie, ont été pendant une dizaine d'années exprimés, avec l'importance que ça peut avoir, parce qu'on a l'impression, et ça on le sait, c'est pas une nouveauté, que il faut bien, c'est représentatif pour le monde, il faut que ce soit la dernière page, la page 32, on vous parle, on vous donne une petite respiration sur le sens, hein, sur l'humanité, sur comment être ensemble, sur d'autres valeurs, pendant 31 pages, eh bien c'est les valeurs du système, du capitalisme, de la guerre, de l'exploitation et du crime, à pleine page, à plein pot, évidemment développé dans l'ensemble des médias. Voilà. On parlera de ça, je pense, ce matin, Jacques. Alors, ce thème aussi, eh bien, puisqu'on parle de... Tu voulais évoquer les affaires sportives, peut-être de revenir sur la définition du sport, que ça veut dire amusement, hein, au départ, le mot sport-amusement, et de voir l'importance, évidemment, que ça a pris dans les sociétés modernes, mais depuis très très longtemps, et peut-être de revisiter, de revoir un petit peu les origines ou certaines pratiques, hein, à certaines époques de l'histoire, pour montrer, parce que là, c'est vrai qu'on se disait, vous savez, on va boycotter, ils veulent boycotter la cérémonie, hein, boycotter, mais pas surtout pas les jeux sont indispensables, et donc la pratique des Jeux Olympiques qui vont, enfin c'est ça va de conserve ou de concert avec le système capitaliste. Il n'est pas question de le boycotter, mais au moins, on pourrait faire, tu sais, une petite protestation, comme on le fait quelquefois. On s'arrête pendant 5 secondes et puis après, les affaires reprennent leur cours. Voilà.
Oui, alors donc, si on revient sur ce sujet de, mais qu'est-ce que c'est que le sport? Qu'est-ce que c'est que les Jeux Olympiques? Qu'est-ce que c'est que quelle origine ils ont, et qui en a parlé? Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'écrivains, beaucoup de commentateurs sur ce sujet-là, et donc on n'a pas l'intention de d'innover complètement dans ce domaine, parce que tout et le contraire de tout a été dit sur le sport, notamment en disant mais c'est une façon de s'épanouir, c'est une façon de participer, c'est une façon de fréquenter avec camaraderie et fair play ses compagnons d'une activité sportive. Donc le côté positif de cet exercice physique et qu'on ne peut pas en effet mettre à la trappe comme ça, puisqu'au fond il faut une je ne sais plus qui disait une âme bien faite dans un corps sain, in corpore sano. Donc c'est vrai que il est important de garder, de conserver ou de développer ses capacités, ses aptitudes, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient physiques. Et donc, sur ce plan-là, l'exercice, le jeu, tant qu'il ne reste qu'un jeu, est tout à fait explicable. Mais alors, ce n'est, le sport est devenu, et de plus en plus, une affaire purement financière. Et donc, avec tout ce que cela peut comporter, la finance d'abord, le nationalisme ensuite. Donc ça veut dire que c'est devenu le drapeau de la haine, le drapeau de la violence. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est, comme je le rappelais tout à l'heure, George Orwell qui a fait un article que vous pourrez lire dans le bouquin, enfin les bouquins qui ont été consacrés au texte de George Orwell. Il a écrit en décembre 1945, alors vous voyez que c'est pas tout récent, un article qui est très intéressant parce que dans un journal anglais qui s'appelle La Tribune, un article particulièrement intéressant parce que il nous parle aussi d'Arsenal. Arsenal que Monsieur Sarkozy, que notre chanoine a été visité hier, et vous savez que le budget d'Arsenal est gigantesque, c'est une véritable entreprise capitaliste de haut niveau et qui peut se permettre aussi d'avoir ses bureaux de bienfaisance. Et donc monsieur le chanoine a été voir comment Arsenal pouvait en effet généreusement, gratuitement expliquer aux jeunes Anglais qui se passionnent pour ce sujet comment on pouvait taper dans un bar. ballon. Et donc, il se trouve que ce club, donc, qui est le symbole, l'un des symboles de d'abord de la guerre, parce que qu'est-ce que c'est qu'un arsenal, hein, sinon une officine ou bien un grand port ou un grand terrain d'aviation ou un grand centre de fabrication et de dépôt des armes pour tuer dans tous les sens du mot, pour tuer sur mer, pour tuer sur terre, pour tuer dans les airs. Voilà ce que c'est que l'arsenal. Et puis, ce qui est évidemment très actuel, c'est que un président de la République française, après s'être gobergé avec tous les Richards et tous les monarques du royaume voisin, va visiter les pauvres dans le cadre d'un club de sport qui s'appelle Arsenal, et il se trouve que George Orwell avait justement parlé en 1945 d'une rencontre de football entre Arsenal et le Dynamo de Moscou, et que cette rencontre, écrit-il, s'est traduite par de nombreux incidents. L'arbitre a été hué, les Russes et les Britanniques se sont cognés dessus, etc. Et alors il dit, maintenant que les Russes sont rentrés chez eux, peut-être qu'on va pouvoir dire ce que c'est que le sport. Je me suis toujours étonné que des gens puissent dire que le sport est quelque chose de positif, et quelque chose qui ne peut que améliorer les relations entre les peuples. Il dit, il faut bien reconnaître que le sport est une source inépuisable d'animosité. Et il ajoute, comment pouvait-il en être autrement? Je suis toujours stupéfait d'entendre des gens déclarer que le sport favorise l'amitié entre les peuples, et que si seulement les gens ordinaires du monde entier pouvaient se rencontrer sur les terrains de football ou de cricket, ils perdraient toute envie de s'affronter sur les champs de bataille. Eh bien, effectivement, et il ajoute toujours dans cet article paru dans la Tribune en décembre 45, si l'on est perdant, l'agressivité la plus primitive prend le dessus. Quiconque a participé, ne serait-ce qu'à un match de football à l'école, le sait bien. Au niveau international, le sport est ouvertement un simulacre de guerre. Cependant, ce qui est très révélateur, ce n'est pas tant le comportement des joueurs que celui des spectateurs, et derrière ceux-ci, des peuples qui se mettent en furie à l'occasion de ces absurdes affrontements et croient sérieusement, du moins l'espace d'un moment, que courir, sauter, taper dans un ballon sont des activités où s'illustrent les vertus nationales. Et il ajoute, à un certain niveau, le sport n'a plus rien à voir avec le fair-play. Il met en jeu la haine, la jalousie, la forfanterie, le mépris de toute la morale, le plaisir sadique que procure le spectacle de la violence. En d'autres termes, ce n'est plus qu'une guerre sans coup de feu. Voilà ce que écrivait George Orwell dans le journal La Tribune en décembre 1945. Il cite d'ailleurs aussi le CIO, qui effectivement a des origines et des patrons particulièrement marqués par les idéologies racistes, nationalistes, fascistes même en ce qui concerne Samaranch. Alors aujourd'hui, on a un brave, je crois que c'est un Suisse qui est patron du CIO, mais ça n'empêche pas que c'est un petit peu comme ce qu'on appelle les Nations Unies. Ce ne sont pas les Nations Unies, ce sont les États. Or, à partir du moment où ce sont les États et qui sont guidés par des intérêts évidemment économiques et financiers, qui sont à la solde des multinationales, qui voient dans la Chine, par exemple, aujourd'hui, un marché extraordinaire, le fait qu'on va pouvoir, en effet, faire des affaires fantastiques, pouvoir, en effet, se payer des yachts pour inviter les présidents de la République, numérique, faire en sorte que distrait des centaines de millions aux salariés qui ont produit ces richesses pour se les partager entre amis. Donc c'est vrai que cette vision que avait Orwell, déjà très 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 critique par rapport au sport de compétition, au sport en général, eh bien elle n'a fait qu'être confirmée par les faits, et elle s'est développée quantitativement et qualitativement à la mesure du développement de nos sociétés. C'est-à-dire qu'évidemment, dans des sociétés où la monstruosité des équipements, des infrastructures, le fait que la concentration des pouvoirs économiques, la concentration des pouvoirs financiers dans quelques mains n'a fait que développer cette vision purement financière, exciter la haine, exciter le nationalisme, brandir un drapeau, eh bien c'est en effet le propre même de n'importe quel État. Alors s'il peut avoir des équipes de football, de natation, n'importe quoi, qui puissent dire, et avec en même temps le relais des médias, parce qu'effectivement ça n'est pas tellement la finesse du jeu, ça n'est pas tellement l'élégance, ça n'est pas tellement, comme dit Orwell, le fair play qui intéresse les présentateurs de télévision, c'est en effet les coups de matraque des spectateurs, c'est la haine de l'arbitre, c'est tout ce qu'il y a de plus vulgaire, de violent et de bas dans l'âme humaine qui est mis ainsi en relief. Alors donc je crois que il est important de dire que c'est pas du tout boycotter la Chine qui massacre, et pas du tout sportivement, comme dit le canard enchaîné, qui massacre les Tibétains. Ce qu'il faut, c'est effectivement boycotter complètement et faire annuler tout ce système de Jeux Olympiques et tout ce système de sport dans lequel des clubs peuvent se permettre d'entrer en bourse. Hein. À partir du moment où vous êtes enfermé dans la logique du profit, à partir du moment où on paye des Zidane des dizaines de millions d'euros pendant que des gens crèvent de faim, eh bien je crois qu'on est dans une société complètement décomposée, complètement folle. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Peut-être qu'on peut faire une petite pause.
Oui, Jacques, eh bien évidemment, on va passer une partie, mais rappelez, tu parlais des Jeux Olympiques, souvenons-nous, on dira un mot de 68, hein, là encore une fois où c'était pas simplement en France, mais dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Sud et centrale, et rappelons-nous pour le Mexique, hein, la répression qui avait eu lieu juste avant, répression de gens qui manifestaient, en particulier de jeunes étudiants à Mexico, et que les Jeux, quelques semaines après, avaient eu lieu, hein, en pleine effervescence de contestation, eh bien, après un massacre, hein, de plusieurs dizaines, les chiffres là-dessus, on ne sait pas trop, hein, puisque c'est une sorte, a été assez occulté, cette répression sanglante, et le sport avant toute chose, hein, le sport et la guerre, eh bien, après ce massacre de Mexico, en 1968, hein, quelques semaines après, avait lieu. Vous vous souvenez certainement, vous rappelez ça, alors ça c'est pour les plus jeunes, leur rappeler que donc il y a quarantaine d'années, n'avait pas empêché du tout, hein, donc à l'ensemble de la planète, quelques semaines après, justement, on avait nettoyé le sang, que de continuer à montrer ces Jeux Olympiques qui vont, évidemment, puisque on le disait ce matin, bien avec la répression, bien avec la guerre, hein, la guerre même. Quand il y a quelques manifestations, puisque souvenons-nous, quelques athlètes avaient levé le poing, et ça reste évidemment quelque chose que l'on raconte maintenant comme des péripéties, comme des anecdotes, hein, puisque ça n'avait pas évidemment chamboulé grand-chose. Si sur l'instant ça avait été assez spectaculaire, eh bien on le voit.
Oui, parce que ça représentait la critique de leur État, puisque exactement. C'était au fond l'État des États-Unis qui exactement. Avait oui. toujours sa ségrégation raciale et, oui. et qui méprisait les Noirs encore plus qu'il ne méprisait les Blancs.
Voilà, c'était donc les limites de pouvoir intervenir même à l'intérieur de ces jeux. qu'est-ce qu'il en reste après coup, et on voit pas grand-chose, et en tout cas de dire que, là encore une fois, c'est une répression qui pourrait être encore plus sanglante et qui n'empêcherait pas, à mon avis, à mon point de vue, comme déjà il y a 40 ans, donc le fait que ces jeux qui sont justement la représentation, la vitrine du capitalisme et du capitalisme, et on pourrait dire du communisme, qui sont l'expression même de ce pays, la particularité, oui, comme disent certains de la Chine, c'est très intéressant.
Oui, mais d'ailleurs, quand on disait, qu'on dit encore qu'on ne peut pas parler de communisme au sens de souci de l'intérêt général des individus faisant partie d'un groupe, d'une communauté, on ne pouvait parler, et on continue à dire, que l'Union soviétique n'a jamais été communiste, elle a toujours été organisée, structurée par évidemment le marxisme à la mode stalinienne, par le capitalisme d'État. Il s'agissait en effet que quelques-uns puissent, l'élite du parti communiste, entre guillemets, s'arrogeait évidemment tous les pouvoirs dans le domaine non seulement politique et militaire, mais financier et économique. On le voit d'ailleurs à la suite de l'effondrement de l'URSS, à quel point c'était bien du capitalisme d'État, voilà, dont il a été facile de le transformer en capitalisme privé, puisque que ce sont les apparatchiks, ce sont ceux qui, en effet, étaient à la tête de l'État capitaliste, soi-disant communiste soviétique, qui se sont emparés, évidemment, des richesses qu'ils avaient déjà, en qualité de hauts fonctionnaires staliniens, à leur disposition.
Oui, alors évidemment, Jacques l'a précisé à chaque fois, quand on parle communiste, communiste d'État, évidemment, communisme autoritaire, communiste, on pourrait dire capitaliste, mais pas du tout le communiste libertaire. Dans sa forme qui a été totalement, évidemment, pour les mots, il faut le repréciser, pris, galvaudé totalement par rapport à ce terme-là, qui était au départ et qui a été toujours, quand on parle de communiste libertaire, un idéal, évidemment, dont on est extrêmement loin, mais simplement un régime policier, un régime de caserne, un régime autoritaire, on l'a vu par rapport à la Chine, et qui fait très bien, qui va et qui étonne encore certains, et au contraire, c'est la même chose, c'est consubstantiel, on pourrait dire, sans jeu de mots, entre le capitalisme et la forme autoritaire, justement, d'un régime policier, d'un régime totalitaire, d'un régime de caserne, en ce qui concerne la Chine. Voilà. Vous êtes sur Radio Libertaire, numéro du studio, le 01 43 71 89 40.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curés, ni de marchands, de policiers. au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'États, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'États, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel, la chaux au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
Thank you.
Bah, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, et donc la deuxième partie de notre émission qui vient d'être consacrée à ce que c'est que le sport de compétition, à ce que c'est que les JO, à ce que c'est que la guerre Chine-Tibet, eh bien, donc on va pas revenir dessus. Et donc notre deuxième sujet sera donc plus centré sur, d'une part, le travail, un article de Jean-Pierre Levaret dans Le Monde Diplomatique, et puis sur un bouquin d'Alexandre Berkman qui, en effet, est très utile pour tous ceux. C'est un peu notre rôle, d'ailleurs, d'être le plus pédagogue possible, puisqu'on va pas demain matin, ça va pas être le grand soir, ça va pas être la révolution. Donc, il faut essayer de contrer le desservelage par un peu un peu d'instruction, un peu de pédagogie, un petit peu dire ce que c'est pour nous très positivement et pas seulement la critique de la société capitaliste, ce que c'est que l'anarchie. Et je crois que là, d'après ce que me dit Gérard, Alexandre Berkman, il y a 50 ans, avait fait un bouquin particulièrement clair.
Gérard. Voilà, Jacques, alors, évidemment, ce matin, ben, vous avez vu peut-être une forme en chanson, hein, déjà, de rappeler deux chansons qui sont passées, là, sur Radio Libertaire, l'émission Chronique Hebdo. Donc, « La vie s'écoule, la vie s'enfuit », hein, Raoul Van Hegen, et puis « Il est 5 heures », donc c'est un petit rappel, hein, des années 68, avec un CD, hein, un disque, donc « Anthologie de la chanson française », pour en finir avec le travail. Alors, vous savez qu'on n'en finit jamais, donc en particulier dans cette émission, puisqu'on en parle relativement souvent, hein, la petite rubrique « Le travail rend libre » par Bart Marfrey, hein, puisque nous émettons, vous le savez, sur l'ensemble de la planète, et en particulier pour nos amis allemands. Eh bien, pour ce matin, justement, je voulais vous parler, puisque tu parlais de l'article de Jean-Pierre Levaret, c'est dans Le Monde Libertaire. Hein. Quelquefois, ça peut arriver dans Le Monde Diplomatique, Jacques, mais c'est Le Monde Libertaire, donc de ce jour, hein, puisqu'en première page, c'était en couverture « Les riches s'empiffrent et les retraités trinquent hein. ». Alors bon, évidemment, sur le concept des riches, on sait très bien que ce sont les, comme on le dit souvent, les riches, ça passe comme une lettre à la poste ou qui ne passe pas, mais c'est plutôt les voleurs, hein, les grands voleurs, les grands corrupteurs, les criminels, s'empiffrent hein, et les retraités trinquent. Alors là aussi, pour les retraités qui trinquent, voir aussi l'organisation, une autre organisation sociale, une organisation peut-être libertaire ou anarchiste, en tout cas, et le problème des retraites se poserait peut-être pas. Ça se poserait peut-être autrement, en tout cas, pas comment l'organisation de nos sociétés, hein, c'est-à-dire 40 ans, 35, 40 ans, 45 ans maintenant de travail, hein, puis on arrête tout, on se met en retrait, hein, on est en retraite. Alors en tout cas, c'est abordé aussi dans le Monde Libertaire de ce jour, avec, je vous le disais, en page 3, vous verrez l'article de Jean-Pierre Levaret sur le travail étu, hein, puisqu'il met, c'est sur les paquets de cigarettes, là, il rappelle, enfin, il rappelle pas les paquets de cigarettes, vous le savez, on pourrait mettre ça sur les entreprises, en tout cas pour leur publicité, puisqu'on le met pour le tabac. Jean-Pierre Levaret fait que titre à des paragraphes, ils volent notre peau, travailler tue, et effectivement, il souligne, hein, comme l'éditorial du Monde Libertaire de ce jour souligne que Frédéric Saint-Jour a fréquenté du beau monde, vous savez pour qui c'est Frédéric Saint-Jour ? Eh bien c'est celui qui va prendre la tête de l'UIMM, hein, Union des Industries Métallurgiques et Minières. Alors on pourrait l'appeler, évidemment que c'est autre chose, vous savez, avec tous les démêlés du MERDEF de Madame Parizeau, et les maîtres des forges, en particulier l'UIMM, et le rappel nécessaire quand même, puisque droite-gauche, les pauvres malheureux, c'est la même chose, vous le savez. On rappelle que Frédéric Saint-Jour a fréquenté du beau monde, il a été énarque, hein, l'école du crime, mais conseiller de Mauroy, hein, il a été conseiller de Mauroy, directeur de cabinet de Fabius et d'Henri Emmanuelli. Surfer sur la vague rose, voilà, hein, donc on va surfer sur la vague rose et on va le nommer à la tête de l'Union des industries des métiers de la métallurgie. Alors, je ne sais pas, la schlag, en tout cas, le fouet, si ça sera avec des lanières métalliques, mais c'est quand même une grande victoire pour les travailleurs et de voir encore une fois que les malheureux, on dit les malheureux parce que c'est quand même, c'est pour ça que je voulais vous parler ce matin de l'ouvrage de Alexander Berkman, ne voit plus très bien, hein, on ne voit pas, puisque je veux dire, il y a tout un tas de choses qui occultent, qui empêchent peut-être de voir la réalité, le monde tel qu'il est. Les choses sont relativement peut-être plus simples que on veut nous le faire croire, la complexité, parce que là encore, quand on voit tous ces mecs, et en particulier, vous le savez, des fois on le dit pour Denis Kessler, hein, c'est l'ancien mec de la CFDT qui était devenu vice-président, qui est toujours, je ne sais pas, au MERDEF, toute cette fine équipe, hein, ou comme Madame Ségolène Royal, qui avait dit à la sortie de l'ENA, « Oh ben, je vais faire plutôt PS », que je vais faire plutôt que le UMP à l'époque, je ne sais pas, ou RPR à l'époque, eh ben parce que c'est peut-être mieux là, c'est peut-être là pour la carrière, c'est peut-être un peu mieux. Alors donc, quand
ça rapporte.
Voilà. Alors donc le paysage, hein, rose, rouge, bleu. Enfin vous connaissez, c'est la même chose. C'est les fines équipes, hein, la bipolarisation comme ils l'appellent. Eh ben ils sont tous évidemment sacralisation du travail. Hein, faut bosser le plus longtemps possible. Et de temps en temps, comme on dit, le PS, il est là pour donner l'illusion qu'il mettrait quelques gouttes de vaseline. Hein. Alors voilà, si c'est simplement, je veux dire, pour tous ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la misère, dans l'exclusion, de la précarité, qui bouffent pas, que cette fine équipe, hein, rassemblée, puisque l'Assemblée nationale a repris ses séances de guignol le mardi et le mercredi à l'après-midi, c'est de vous foutre un petit peu de vaseline ou de faire illusion, hein, qu'on est en désaccord, eh bien malheureusement, les faits, comme on dit, hein, bon sang, mais c'est bien sûr, monsieur Frédéric Saint-Jour, eh bien voilà, un de la bande
de gauche,
un homme de gauche, va vous foutre des coups de pied au cul. Alors, voilà, alors Jacques, je pense que c'était à préciser.
Et
alors,
à propos d'homme de gauche, ouais. Ce matin sur France Inter, il y avait Denis Oliven qui va prendre la direction du nouvel observateur.
Et qui
prétendait qu'il avait toujours été un homme de gauche,
oui,
qui parle
à la flaque.
C'est incroyable d'entendre. Alors évidemment, à partir du moment où des gens comme ceux-là qui ont été PDG de... Là, il est à la FNAC. Avant, il était je ne sais où, à Air France ou dans d'autres
multinationales.
À partir du moment où des personnages comme ça disent qu'ils sont de gauche, alors évidemment, on peut... Comme tu le dis, blanc bonnet blanc, on peut encore se demander comment le public, comment l'ensemble des gens, mais il est vrai que le matraquage télévisuel et journalistique fait encore croire qu'il y a la moindre différence dans les propositions de monsieur Hollande et de monsieur Vaillant, monsieur Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur de Jospin, qui a sacralisé et qui a dit qu'il était d'accord avec ce que faisait Sarkozy, qui a applaudi à la désignation comme président de la République de celui qui devrait être considéré comme son pire ennemi. Eh bien, non, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, donc même quand ils reçoivent des claques, ces renégats du PS pour aller avec Kouchner et Bockel pour aller manger la même soupe que la droite ou l'extrême droite, eh bien, quand ils reçoivent une claque comme Bockel qui s'est fait chasser du secrétariat à la coopération il y a quelques jours parce qu'il avait osé dire du mal de monsieur Omar Bongo, hein, le canard enchaîné, dictateur, petit dictateur africain qui depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui évidemment empoche toute l'aide que les pays, que ce soit la France ou l'Europe, peuvent donner à sa petite dictature africaine. Alors monsieur Bockel avait osé dire ah ben la France-Afrique c'est fini, la France-Afrique ça voulait dire les liaisons de corruption, les liaisons de passe-droit, les liaisons de fric qui existent entre la France et ses entreprises et puis ses politiciens et puis les politiciens africains. Alors voilà, monsieur Bockel a été remisé au placard, il est aux anciens combattants avant d'aller directement au Père-Lachaise. Voilà. Ben, ça le gêne pas, c'est des gens, hein. Ils sont de gauche, ils sont de droite, qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Comme tu le disais tout à l'heure, il faut faire une carrière et il faut avoir les déshonneur et le fric.
Voilà, alors Jacques, donc par rapport à cet article, Jean-Pierre Leveret, vous connaissez, donc rappelle souvent sur Radio Libertaire, hein, en plus ses ouvrages, hein, comme Putain d'usine, hein, vous le savez. Alors dans cet article, bah, il dit quelque chose qui est à souligner par rapport à Madame Christine Lagarde, hein, qui nous dit vous avez froid, mettez un pull, hein, vous avez maintenant, elle nous dit ça, il n'y a pas de transport, faites de la bicyclette, marchez à pied. Et moi je pense qu'elle va bientôt elle va dire vous avez plus rien à bouffer, parce qu'elle a fait un
oui c'est Marie-Antoinette d'ailleurs, elle est voilà. À l'honneur en ce moment,
voilà,
elle est oui, il y a des films sur la glorieuse Marie-Antoinette, oui. Qu'on avait maltraitée.
Mais et donc
ouais. Elle va dire ah bon, le peuple ne peut plus manger de pain.
Alors oui,
ils mangent de la brioche.
Voilà, qui mange de la brioche. Alors elle est venue, elle a fait une longue énumération très technique hier sur le prix du lait, du jambon, des céréales, des pâtes et tout ça. Alors la proposition qu'on peut lui faire, c'est qu'elle dise aussi, hein, pour vaincre l'obésité, eh bien l'ensemble de la population française, plutôt de faire 2 ou 3 repas par jour, un seul repas suffit. C'est largement suffisant. Donc vous ferez des économies. Alors voilà le système Lagarde. Donc, qui énerve un petit peu, évidemment, on comprend Jean-Pierre Leveret. Et voilà ce qu'elle a déclaré, hein, sur le travail. Alors, au Dieu de nous, certains seraient atteints d'un mal insidieux, de préjugés aristocratiques, elle parle pour elle, qui fait considérer le travail comme une aliénation au lieu d'y voir un moyen d'émancipation essentiel à l'homme pour mener une vie équilibrée. Voilà ce qu'elle a déclaré.
C'est épouvantable. Voilà. Tu te rends compte que quelqu'un veut dire ça, mais il devrait mettre, isolé. Il devrait
alors voilà, écoute Jacques, ce que dit Jean-Pierre Leveret, il dit on a envie de trimballer sa tête au bout d'une pique quand la révolution viendra. Alors évidemment, oui. Alors c'était ça pour ces analogies. Et je vous recommande donc de lire cet article de Jean-Pierre Leveret, hein, page 3 du Monde Libertaire de ce jour. On évoque aussi l'histoire des retraites, hein, puisqu'il y aura une manifestation, vous le savez, samedi. Alors simplement, je voulais vous dire à partir de ça, puisque d'autres déclarations ont été faites il y a à peu près un an, hein, par l'autre aussi sur le travail, les symboliques par sa Majesté Sarkozy Ier. Et à la suite de ça, vous savez, fameux, puisqu'on a entendu quelques chansons qui nous remémorent mai 68, donc liquider mai 68, et Gérard Filoche, vous le savez, certainement, puisque là aussi, on parle souvent de Gérard Filoche, il est venu sur cette antenne.
Hein, inspecteur du travail,
voilà,
pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Exactement, donc préciser, il a sorti un ouvrage, mai 68, Histoire sans fin, liquider mai 68, point d'interrogation, donc il essaie de répondre à les déclarations d'il y a un an, et en particulier celle du gouvernement actuel, la destruction, vous le savez, du Code du travail. Seulement, voilà, pour Gérard Filoche, hein, il évoque les héritiers et de mai 68, il nous parle du social, de l'époque, évidemment, la plus grande grève de l'histoire, hein, faut le rappeler, 10 millions de gens en grève, révolutionnaire et solidaire. Seulement, à mon avis, voilà ce qu'il dit. Ils continuent à lutter pour une autre, ces gens-là, employés ouvriers, faut pas l'oublier, continuent à lutter pour une autre répartition des richesses, pour le droit au travail et des salaires et des retraites. Alors, ça, c'est un point de vue, évidemment, qui n'est pas, à mon avis, anarchiste. Parce que le point de vue, on le disait tout à l'heure, vous le verrez, en particulier, Jean-Pierre Leveret l'évoque dans son article, dans une autre type d'organisation, et c'est pas de dire il faut rêver, qu'il faudrait, non seulement c'est pas une utopie, comme tu sais Jacques, de dire une utopie, ce que ça veut dire, ou en tout cas un rêve, ou tout du moins, c'était quelque chose qu'il faut réellement, et en tout cas, je vais vous en dire quelques mots avec Alexander Beckmann, essayez de voir, parce que c'est une autre organisation où il y a un choix par rapport à s'organiser, quand on parle d'autogestion, par rapport à s'organiser au travail, par rapport à réfléchir sur ce que l'on fait comme activité, par rapport à la durée de cette activité, alors
par
que...
Par rapport au lien entre celui qui... éventuellement organise le travail et puis le salarié.
Voilà.
Un lien associatif, un lien équitable, un lien à égalité, et non pas un lien de subordination à un patron. Le lien hiérarchique, effectivement, il est absolument contraire, non seulement à la vision fédéraliste anarchiste, mais il est contraire à toute notion de morale. Quand on nous dit, ben, on veut pas la guerre, on veut être pacifiste, on veut que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il s'entende. si on ne remet pas en cause cet aspect absolument fondamental de l'énorme injustice qu'il y a à considérer qu'un individu qui sous prétexte qu'il a faim, qu'il doit manger, et qui vient proposer son activité, qui vient proposer de créer de la richesse, se voit privé de la richesse qu'il a créée parce que devant lui, il a un patron, devant lui, il a un actionnaire, devant lui, il a celui qui lui dit « Oui, mais moi, c'est moi qui ai le capital, c'est moi qui suis le plus grand voleur et donc c'est moi le chef ». Il est certain que cette vision de la société, même, je sais bien que Monsieur Filoche, il est inspecteur du travail, donc il a baigné, c'est normal, dans une réalité dans laquelle, effectivement, le contrat de travail, c'est ce qu'on vit tous les jours.
Alors, Jacques, en particulier, donc, simplement, le même terme de salaire d'évoquer le droit au travail, hein. Alors, au droit au travail, comme tu dis, où c'est important savoir le définir, qu'est-ce que ça veut dire, le droit au travail, si c'est le droit de se faire exploiter, si c'est le droit d'aller travailler dans une entreprise capitaliste avec un pistolet sur la tempe en disant c'est ça ou rien du tout, ou vous allez crever dans la rue. D'autre part, d'évoquer le fait de salaire, puisqu'on le, ce point de vue, ça veut dire que c'est le salariat. Et le salariat, l'abolition du salariat, c'est une revendication importante qu'on a un petit peu oubliée, qu'il faudrait rappeler. Parce que si on se dit, alors, on aurait des bons salaires, hein, on serait des bons salariés, et encore une fois, et des retraites pour dire, eh bien, si on aménage le temps de travail, hein, certains ont voulu le faire, aménager à 35 heures, ou les retraites au bout de 40 ans, eh ben, vous aurez peut-être, là, on vous dit 45, puis nous, on dira, parce qu'on est généreux, on mettra au bout de 39. Alors non, en fait, donc, cette réforme-là, si on parle véritablement de soulèvement pour 1968, en particulier ses réflexions par rapport à l'organisation et de la société du travail, eh bien ces termes-là étaient évoqués. Et quand les gens disaient « abolition », vous le savez, c'est « ne travaillez jamais », ils voulaient dire « ne travaillez jamais pour les capitalistes hein, », « ne travaillez jamais dans les conditions de bagne, dans les conditions d'exploitation que l'on veut vous faire », et de dire qu'il n'y aurait pas, encore une fois, puisque le capitalisme, certains veulent nous le foutre dans la tête, est indépassable, ça voudrait dire que le salariat, l'organisation du travail capitaliste, toute cette société, comme elle fonctionne, c'est indépassable. Donc on ne peut pas aller justement dans ce type de réforme qu'on pourrait dire, quand on parlait tout à l'heure de réformer, d'ajuster, de mettre un petit peu de vaseline, que d'un côté d'autres s'en foutraient, continueraient à s'en foutre de plus en plus dans les poches, et qu'on pourrait dire comme Monsieur Braun, hein, la société, la nouvelle société, la globalisation de la société, c'est la globalisation du travail capitaliste, et en dehors de ça, eh bien, il n'y a aucun salut, aucune possibilité d'autre que deux pour certains hein, qui pointent leur nez, de dire on améliorerait les conditions d'esclavage, on mettrait quelques chaînons supplémentaires à votre laisse, à votre chaîne. Donc ça, on l'a complètement oublié, je pense, et c'est pour ça que je voulais vous lire ce matin, Jacques, quelques lignes d'Alexandre.
C'est très important, Bergman. Et c'est en ça que 68 était révolutionnaire. Non pas seulement le mot révolution évoque tout de suite la lutte armée, mais c'est pas du tout ça, c'est une révolution dans les esprits, c'est une transformation radicale des mentalités, parce qu'effectivement elles sont imprégnées par l'idée que du moment qu'on parle travail, on parle travail salarié. Or c'est pas du tout la vision qu'avaient les gens de 68, encore qu'aujourd'hui sur France Inter Monsieur Gessmar nous disait qu'il avait jamais été révolutionnaire. Ah oui. Décidément les renégats sont partout depuis Cohn-Bendit et Gessmar. Eh bien je crois que c'est ça la pierre d'achoppement de toute transformation radicale de la société, c'est de ne plus accepter l'inégalité qui existe entre celui, d'ailleurs il porte bien son nom, le donneur d'ordre, le patron, et celui qui lui est soumis. C'est donc une nouvelle vision des choses, et c'est en ça que c'est complètement en effet révolutionnaire, si on utilise ce mot, pour expliquer une transformation radicale, un changement, une volte-face, comme dirait Camus.
Voilà, Jacques. Alors donc, je vais vous lire quelques passages, hein, mais rapidement, sur de qu'est-ce que c'est que l'anarchisme, Alexander Berkman. Hein, je vous dis donc, je vous le rappelle, ça a été édité. Je vous dis ça à l'échappée. Hein, donc vous pouvez le trouver. Ça a été traduit en 2005. Donc le travail salarié, il le définit, hein, en faisant évidemment. Et comprends-tu à présent, puisqu'il il le fait. C'est intéressant par petits chapitres, des explications extrêmement simples. Je pense qu'il est extrêmement dangereux parce que c'est vraiment très accessible, très limpide. La sagesse de Proudhon, il lui dit, a dicté d'écrire que la propriété, c'est-à-dire ce que les riches se sont appropriés, c'est le vol du travailleur, le vol du producteur de richesse, hein, en disant que ils en laissent un dixième et puis ils en prennent eux, hein, dans tout leur trafic, les neuf dixièmes. Alors voilà un peu, il fait un moment, évidemment, la définition est demander à cette suppression de réfléchir à ce que ça veut dire le travail salarié et comment le gouvernement et la loi, évidemment, protègent, hein, encadrent ce système du travail salarié. Alors, en résumé, voilà ce qu'il dit. Le capitalisme te vole et fait de toi un esclave salarié. La loi encourage et protège ce vol. Le gouvernement te trompe en te faisant croire que tu es libre et indépendant. Et c'est ainsi que tu es volé et dupé chaque jour de ta vie. Mais comment se fait-il que tu n'y aies pas pensé avant? Et comment expliquer que la plupart des gens ne le voient pas non plus? C'est parce qu'on te ment, à toi et à tous les autres, en permanence, depuis votre plus jeune âge, hein, quand on le dit, depuis votre plus jeune âge, l'école de la République, c'est ce qu'elle vous enseigne. Alors on te dit d'être honnête, alors que tu te feras voler toute ta vie. On t'ordonne de respecter la loi, alors que la loi protège les capitalistes qui te volent. On t'apprend que c'est mal de tuer, alors que le gouvernement pend. Il parle des États-Unis, mais pour l'époque c'est pareil actuellement, et électrocute des hommes et des femmes, et les massacre à la guerre. Ça a été écrit en 1929. Hein. On te dit d'obéir à la loi et au gouvernement, alors que la loi et le gouvernement sont du côté des voleurs et des meurtriers. On te ment, on t'abuse, on te trompe ainsi toute ta vie afin de profiter ensuite plus facilement de ton travail et de mieux t'exploiter. Car les patrons et les capitalistes ne sont pas les seuls à faire des profits sur ton dos. Le gouvernement, l'église et l'école, tous vivent de ton labeur. Tu les entretiens tous, c'est pourquoi tous t'apprennent à être contents de ton sort et à bien te conduire. Voilà, Jacques, quelques lignes, hein. Je ne vais pas...
Ouais, oui, comme dirait Céline.
Développer.
Comme dirait Céline dans un papier sur oui. Sur le, c'est pas spécifiquement au travail, mais sur la soumission aux prêtres, aux religieux, aux patrons. Il disait tout ce qu'on t'apprend à toi, prolo, plus la sueur, ouais. C'est de mourir dans les principes. Mourir dans les principes, voilà. Ça voulait dire mourir selon une morale d'une immoralité flagrante.
Alors voilà, alors je vous rappelle, hein, si vous le souhaitez, puisqu'on pourra en lire plusieurs pages, mais bon, il y a d'autres émissions, hein, éventuellement, mais vous pouvez prendre connaissance de ce bouquin, hein, c'est donc, je vous rappelle, publié aux éditions L'Échappée, ça s'appelle « Qu'est-ce que l'anarchisme ?» Alexander Berkman, et donc il y a plusieurs chapitres, il hein, y a un chapitre d'explication, un constat hein, de ce que l'état de la société, comme on dit, comment va le malade, hein, le corps social, comment il souffre, après, évidemment, des propositions et la révolution sociale, donc un ensemble de thèmes, je pense, assez clair, assez limpide, assez simple, hein, pour, comme on dit, combattre la complexité des diafoirus politiciens et économistes hein, qui vous disent c'est compliqué, c'est complexe, hein, on les entend partout, ils sont là, ils occupent l'ensemble des médias. Eh bien, et puis vous savez bien aussi les cours d'économie, puisqu'on a parlé ce matin des écoles de commerce où le discours, évidemment, de tous les bouquins, hein, vous le savez bien, puisque encore une fois, Jacques, on rappelle que Monsieur Barr, il y a une trentaine, 35 ans, il faisait office vraiment de grand gourou de l'économie, hein, en particulier dans toutes les universités, fallait les lire, le Raymond Barr, et pour pouvoir avoir une vision très très simple, mais ne plutôt très complexe de l'économie mondiale et du système capitaliste, et ce qui était évidemment enseigné dans toutes les universités, en particulier à l'époque, je me souviens, c'était en 1968, en sciences économiques à Nanterre, eh bien, ils biberonnaient tous du Raymond Barr. Voilà. Jacques.
Alors, est-ce qu'on fait une petite pause musicale avant d'évoquer, comme il est midi moins le quart, un autre sujet qui est la création par le monde diplomatique d'une petite association qui s'appelle Diplociné, avec le ciné du Luxembourg, et qui prétend, si j'ai bien compris, Dominique Vidal, qui présentait un premier film dimanche dernier, et qui prétend mettre en valeur... promouvoir des documentaires qui mettent le doigt sur les anomalies, les injustices, les inégalités de notre société. Et donc, un premier film qui s'appelait « Les Caprices de Marianne » a été diffusé dimanche 23 mars en public dans une des salles des Trois Luxembourg tout en haut du boulevard Saint-Michel. Alors est-ce que j'en parle tout de suite ou bien est-ce que je veux mettre une musique?
Oui. Oh, Jacques est un petit quart d'heure là, alors je ne sais pas.
Hein, j'en parle tout de suite.
Oui, voilà. D'accord. Allez, on est.
Bon, alors, voilà. Ce qui m'avait attiré là, c'est parce que vous savez qu'on a déjà reçu ici Dominique Vidal et Serge Halimi du monde diplomatique. Alors, bien sûr que maintenant que Serge Halimi est devenu le patron du monde diplomatique, je ne sais pas si nous oserons le faire venir
si,
à nouveau.
Si, oui.
Mais Dominique Vidal il avait fait un bouquin et nous avait beaucoup intéressé à propos justement de cette société des États-Unis dans lequel les constructeurs de prisons entrent en bourse, un petit peu comme les clubs de football qui entrent en bourse, c'est-à-dire on inscrit en quelque sorte la déchéance humaine, le fait d'enfermer un individu pendant des mois ou des années dans un lieu clos, cette guillotine sèche dont on parle bien souvent que représente la prison, eh bien, ça fait faire des affaires. Ça fait faire des affaires aux États-Unis et il nous avait donc exposé que, malheureusement, les plus défavorisés, qui sont les Noirs aux États-Unis, et qui l'étaient et qui le sont encore, sont, s'ils veulent entrer, faire un pas dans l'ascenseur social, comme on dit, ils étaient obligés de pratiquer un sport, et notamment la boxe, qui est, comme disait Orwell, le plus terrifiant, le plus proche de la guerre des sports. Et c'est un petit peu pour cela que j'ai assisté à cette présentation d'un film qui s'appelle « Les Caprices de Marianne ». Alors je me suis dit dans un premier temps qu'on allait en effet souligner à quel point Marianne, la République, était finalement qu'une royauté masquée, qui était un État qui, sous prétexte de valeurs généreuses, de solidarité, malheureusement a montré à quel point elle n'était finalement pas plus républicaine au sens des lumières de la Révolution de 89, des positions de Voltaire, de Diderot et bien d'autres penseurs de l'époque. Elle n'avait plus rien à voir avec cette République-là et que, enfin, cette République imaginée par ces créateurs d'idées et de nouvelles relations sociales qui étaient tous ces philosophes des Lumières. Malheureusement, ça n'a pas été du tout été le cas sur ce sujet. Les caprices de Marianne, et évidemment, c'est simplement qu'elle n'a pas voulu. Alors voilà le thème du film. Elle n'a pas voulu, Marianne, accepter de diffuser un film, un documentaire sur la... Alors évidemment, sur ce sujet-là, on n'a pas eu beaucoup, ni même on n'a eu aucune explication. Elle a refusé, Marianne, de diffuser, soit dans les cinémas, soit à la télévision, un film qui avait eu le premier prix du documentaire à la Mostra de Venise. Et c'est uniquement parce que ce film avait eu le prix documentaire à Venise et à Clermont-Ferrand que...
le réalisateur a fait un deuxième film qui s'appelle Les Caprices de Marianne et qui nous montre tous ses efforts pour se faire diffuser, mais sans jamais aucun moment, et même quand je l'ai interpellé sur Marianne, puisqu'il a sur La République, il a dit exactement le contraire de ce qu'on pouvait imaginer, à savoir que lui, il adorait Marianne, il adorait La République, il trouvait ça formidable, et que si Marianne voulait bien accepter de passer son film, eh bien, il lui en serait éternellement reconnaissant. Alors, évidemment, ça commençait pas très bien, dans la mesure où il n'y a pas eu du tout de discussion sur ce qui, d'après quelques mots qui ont été prononcés, a fait l'objet du film interdit, ce film interdit qui s'appelait Signe d'appartenance, et qui est un sujet évidemment très important, très intéressant, et qui évoque notamment les monstruosités des cultures, de certaines cultures religieuses, notamment qu'il s'agisse de la culture juive ou de la culture musulmane, et qui prescrit et qui ordonne la circoncision ou l'excision sur des individus sous prétexte que c'est la seule façon pour eux d'abord de ne plus être un individu conscient et d'être simplement un membre du troupeau de la communauté. Et donc ce sujet-là, qui en effet, comment lutter contre les traditions culturelles lorsqu'elles sont absolument en opposition absolue avec tout ce qui est la dignité d'un individu, hein, c'est-à-dire le respect non seulement de son cœur, de son âme, de son esprit, mais de son corps, eh bien, cette discussion, évidemment, n'a pas du tout eu lieu. Ça a été simplement le fait qu'un personnage, un réalisateur, dit « c'est quand même pas bien, j'ai eu un prix », au surplus, au fond, s'il y a juste les jurys de la Mostra de Venise ou de Clermont-Ferrand qui ont vu le film, on peut toujours se demander si l'ensemble des gens qui ont un œil critique sur n'importe quelle production cinématographique aurait eu le même avis. Et donc, là encore, ça nous a paru particulièrement dommage, regrettable, que, et on espère quand même que le monde diplomatique, avec son association Diplociné, trouvera une autre manière de présenter et d'organiser, puisqu'il y avait un débat à la fin de la projection de ce film, Les Caprices de Marianne, qui n'a jamais, en effet, été jusqu'à dire de quoi était fait le signe d'appartenance qui avait justifié à la fois cet honneur et cette indignité, l'honneur de la Mostra et l'indignité de Marianne. Mais de toute façon, je pense que la justification d'une telle initiative, au surplus intéressante, faite par un journal que à la fois nous savons apprécier et que nous savons avec beaucoup de clairvoyance, nous l'espérons en tout cas, critiquer, eh bien, c'est un peu dommage que on se soit enfermé dans un propos qui était La République censure un documentaire honoré par des jurys d'une organisation cinématographique italienne. Et donc, c'est vrai que le sujet, le débat, non seulement était très réduit, réducteur, mais en plus, si c'est simplement pour nous dire que, puisque c'est un peu ce qu'on a vu, Monsieur de Villepin, Monsieur Bébéard ou autres notables, ou Monsieur Kessler, Denis Kessler, du cinéma français, refusait, se défilait quand on leur demandait avec une certaine vigueur. On leur demandait d'intervenir pour faire paraître ce film. Il est certain que, disons que l'intérêt était particulièrement limité. Voilà ce que je voulais dire sur cette initiative qui n'a pas commencé d'une façon très brillante.
Voilà.
Jacques, alors, ben, écoute, quelques minutes hein, avant le présent têtu,
on scène. Oui, mais on pourra faire les annonces.
Parce oui, que, voilà.
Il y a par exemple, alors, le samedi prochain, 29 mars, à 16h30, à Publico, un bouquin. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'Alexandre Berkman. Il faut absolument que tout le monde lise Alexandre Berkman. Ouais. C'est absolument génial. Tu en as lu un extrait qui était vraiment très, très intéressant. Mais alors, dans cette idée-là, il y a aussi deux auteurs, Philippe et Michel Parère, qui vont venir à Publico, donc au 145 Rue Amelot, le siège social de notre radio, pour évoquer un de leurs bouquins qui s'appelle La Révolution Libertaire, et où ils ont, moi je ne l'ai pas lu, donc il faudra j'assiste ou que vous assistiez vous-même à cette présentation d'un bouquin, La Révolution Libertaire, et qui est essentiellement composé. C'est pour ça que je pense à Berkman, d'extraits de propositions de Pierre-Joseph Proudhon, de Michel Bakounine, de Pierre Kropotkine, évidemment, qui sont nos référents. Alors, je sais qu'il y a des petits oiseaux qui vont parler de clergé, anarchiste ou de caricature, et qu'au fond, c'est Calor Brodène, tout ça, c'était des gens qui ont vécu il y a 150 ans, donc ils n'ont dit que des conneries. Hein, on entend ça, y compris parmi ceux qui se prétendent libertaires ou anarchistes. Mais je crois qu'il est toujours utile, et on en a l'exemple tous les jours. Aujourd'hui, dans l'actualité, Gérard vous a parlé d'Alexandre Berkman qui a écrit en 1929, et moi je vous ai parlé de George Orwell qui a écrit dans le journal anglais La Tribune en 1945. Donc vous voyez bien que Chronique Hebdo, c'est en effet un commentaire de l'actualité, mais on n'est pas pour autant obligé d'écouter les propos modernes de Bernard-Henri Lévy, de Gisbert, de quelques autres Zozo, de Gessmar.
Ou toute la clique, et comme Bendit.
Et pas du tout moderne, pour pouvoir faire une présentation de ce que nous vivons aujourd'hui.
Oui, Jacques, alors pour rigoler un petit peu, bah, avant de terminer Chronique Hebdo, on va vous parler de quelques rendez-vous, un rendez-vous en particulier pour la semaine prochaine. Pour le comme Bendit, vous avez le Télérama, qui reproduit en couverture la fameuse photo où il était en train de narguer un flic à l'époque, en 68. Maintenant, je ne sais pas, il nargue moins la police. Il se fait peut-être un petit peu encadrer, en particulier quand il est à l'Assemblée européenne. Alors l'intérêt, peut-être, je ne sais pas, il y avait quelques années, on faisait des découpages avec des pointillés. Alors je proposais à Télérama de faire des pointillés autour des grandes figures qui ont marqué mes 68, comme Gessmar, comme tu parlais tout à l'heure, Sauvageau, on ne sait plus, en tout cas comme Bendit, et puis vous savez, de faire des petits montages en carton sur votre table de salle à manger, et donc pour jouer à mai 68, aux enfants, leur proposer de faire des boules de papier et puis de l'envoyer donc sur ces grands révolutionnaires. Alors c'est ça serait assez drôle.
Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai été absolument envahi par un optimisme béat ce matin quand j'ai entendu sur France Inter qu'un sondage organisé auprès de la population française, et contrairement à ce que nous propose le chanoine de détruire 68, 80%, 78% de Français trouvent que 68 a été génial, une avancée considérable. On a modifié dans un sens très positif la façon, en tout cas, de vivre ensemble, même si, en effet, on s'est finalement heurté à ce qu'on essaye de décrire tous les jeudis, c'est-à-dire un État étranger au droit, indifférent à toute idée morale et simple instrument de force.
Alors Jacques, je vous conseille, tout à l'heure on vous a conseillé Le Monde Libertaire, juste avant de terminer la page 11, La Mauvaise Herbe Repousse, vous verrez ça, une sorte de squat autogéré qui se reconstitue à Caen. Donc La Mauvaise Herbe, alors on voulait dire quelques mots ce matin, mais on n'aura pas le temps, donc je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine ou une autre semaine. À suivre, vous pouvez voir cette information-là, c'est sur Internet, si ça vous intéresse, je vous dis, page 11 en particulier, et le projet, il y a un site Internet, ça s'appelle le Pavillon Noir, c'est situé au 10 boulevard boulevard Poincaré à Caen, hein, très important. C'est pas une université.
Et c'est et déjà, donc... oui, c'est pas l'idée université de Monsieur Michel Onfray.
Je ne sais pas. Oui.
L'université du goût, la mauvaise herbe.
La mauvaise herbe.
Effectivement, c'est un peu pour lui oui. La racaille ou la canaille, et ça l'intéresse pas du tout.
Non, ça, alors voilà. Alors ça, on en reparlera. Évidemment, affaire à suivre, très important. Et puis aussi, la semaine prochaine, un rendez-vous. Hein, je vous avais parlé de Jacques Vallée. Ça devrait se passer le 17 avril, hein, dans cette émission, invité, chronique hebdo. La semaine prochaine, nous invitons Émile Bramy. Alors, vous verrez ça certainement sur Le Monde Libertaire, annoncé dans Le Monde Libertaire de la semaine prochaine. Émile Bramy, qui, pourquoi viendra-t-il nous voir ? Premièrement, parce qu'il a écrit des ouvrages, et un ouvrage en particulier très intéressant sur Céline, Louis-Ferdinand Destouches, hein, donc Céline. En particulier, on revisitera avec lui le Voyage au bout de la nuit, tout du moins, et puis Mort à crédit. On parlera, ça fera beaucoup de bruit peut-être, mais c'est ce qu'il faut faire, des pamphlets. Et puis aussi, quelle est l'actualité ? Eh bien, les éditions Montparnasse ont sorti deux DVD sur Céline, ça s'appelle Céline Vivant. Ce sont des reportages, des films qui ont été faits dans les années 58, en particulier il y a une lecture pour tous dedans, je vous conseille à voir ça. Donc il y a des entretiens, des interviews, et aussi on rappelle l'époque, le prix Renaudot, il n'y avait pas eu le concours pour Voyage au bout de la nuit, avec toute la solennité de l'époque. Donc c'est un film extraordinaire, et puis on voit aussi des images de Louis-Ferdinand Céline quand il habite Meudon avec ses chiens, ses chats et ses perroquets. Et en particulier, je vous dire, donc Émile Bramy, qui est auteur, écrivain, et qui a la particularité aussi, c'est pas rien, d'avoir une petite librairie à Paris. On en parlera, avec beaucoup d'ouvrages consacrés justement à Céline. Hein. Alors ça sera dans l'émission Chronique Hebdo, donc jeudi prochain, où on abordera l'ensemble de ces thèmes, et puis aussi justement l'œuvre de Céline. Et,
sans préjugés ni pas.
On va essayer, et on verra, puisque vous êtes donc sur Radio Libertaire, de voir autour de ce, moi je dirais, par rapport à l'écriture en particulier, le génie Céline, justement sur l'écriture du XXe siècle, comment il a réformé, et ça c'est très important, ce qu'on disait, 3 siècles de langue morte, et le langage parlé, le langage de l'émotion, le langage de la vie, avoir réussi à le mettre sur du papier. Donc on en parlera jeudi prochain dans l'émission Chronique Hebdo avec Émile Bramy. Voilà, Chronique Hebdo, c'est terminé.
Eh bien, à la semaine prochaine.
Salut.